Chapitre 3. Le mont Éphraïm. La dame attendue vint effectivement le lendemain. Camilla la reçut avec le même plaisir qu'elle avait éprouvé à Tunbridge. Mais la belle étrangère augmenta encore ce plaisir en lui demandant son amitié comme la seule consolation de son existence. Elle lui dit qu'elle la regardait comme un trésor qu'elle avait perdu et qu'elle venait de retrouver. Camilla éprouva l'impression de la plus douce sympathie. La beauté de la dame lui parut attractive, sa voix mélodieuse et ses manières extrêmement caressantes. Elle craignait néanmoins que l'ignorance du nom et des parents de cette dame ne provoquât encore les railleries de Mistress Albury. Elle se détermina donc à ne lui rendre sa visite qu'un autre jour pour éviter de paraître dehors avec elle. La dame y consentit, et elles avaient déjà passé 2 heures ensemble qui ne leur avaient pas paru 2 minutes lorsque Mistress Albury fit dire à Camilla qu'elle allait sortir. La belle inconnue prit congé en disant que son domestique l'attendait. Camilla et Mistress Albury allèrent chez le libraire. Là, elles furent bientôt jointes par Lord Olerney et par le général Kinsale, qui étaient de vifs admirateurs de la vivacité et des observations critiques de Mistress Albury. M. Denel prit une gazette, sa fille se plaça devant la porte pour voir ceux qui se promenaient au pontil. Sir Théophile Gérard, sous le prétexte de lire un pamphlet, dormait dans un coin. Lord Newford, sans faire attention à rien qu'à sa propre figure, se mirait dans une glace et Sir Sedley, étendu sur une chaise au milieu de la boutique, mangeait des bonbons. Mistress Albury s'en tint pendant quelques moments à des remarques générales. Mais voyant que celle qui s'adressait directement à Sir Sedley n'excitait pas en lui le moindre mouvement et ne le retirait point de son apathie, elle s'adressa subitement à Lord Olerney. « Je vous en prie, lui dit-elle, pourriez-vous me donner des nouvelles de Sir Sedley Clarendel ?»« Non pas comme je le désirerais, répondit sa seigneurie, mais j'espère que je pourrai lui en demander à lui-même. » « Vous devez croire, mylord, que je suis très en peine de lui quand je le vois dans quelqu'une de ces rêveries auxquelles il est très sujet et dans lesquelles il semble perdre toute espèce de sentiment. Ne croyez pourtant pas que ce soit un état de torpeur absolue. C'est une situation pénible dans laquelle il travaille intérieurement à se souvenir de lui-même. Que ceci néanmoins ne lui fasse aucun tort dans votre esprit. » Car il est mon voisin, et je puis assurer à votre seigneurie qu'il n'est point de meilleure patte d'homme dans tous les environs. » En disant ces mots, elle fit un bâillement. Sir Sedley, fatigué de la même attitude, décroisa ses jambes, se leva et prit un livre, tandis que Lord Newford, riant aux éclats, éveilla Sir Théophile Gérard en répétant « Bonne patte d'homme ! Oh, pauvre Cléry ! Pauvre Cléry !
Qu'est-ce donc que cette Cléry ?»
dit Théophile Gérard en se frottant les yeux. « Ce pamphlet m'a tellement ennuyé que je ne savais plus si je veillais ou si je dormais. » « Il est donc une bonne patte d'homme, » reprit Lord Newford. Sir Sedley, quoiqu'il s'attendît à quelques épigrammes et qu'il les défia même, ne put supporter cet éloge mortifiant. Il demanda le livre des adresses qu'il avait déjà tourné et retourné. « Y a-t-il quelque nom connu ? » dit-il. « Personne, » dit Lord Newford, qui s'en empara le premier avec une sorte de droit, car c'étaient les seuls livres de cette boutique qu'il eût jamais lus. « Inscrivez-vous, milord, » dit Mistress Albury. « Je placerai mon nom après celui de votre seigneurie. » Alors elle écrivit son nom et tira une demi-guinée. On présenta ensuite le catalogue à Camilla, qui, s'imaginant que c'était un usage établi, s'inscrivit par timidité, quoiqu'un peu fâché de donner la moitié de l'argent qui lui restait. Miss Denel en fit autant, mais son père dit qu'il n'était pas venu à Tunbridge pour lire, qu'il lirait assez chez lui, et il refusa positivement de s'inscrire. Sir Théophile tournant, ou plutôt secouant les feuillets, dit « Je ne vois ici d'autre nom connu que celui de Lady Alicia Selmore. »« Quoi ? Pas personne d'autre ici ? » s'écria Lord Newford. « Pas une âme ?» Presque tous ceux qui étaient présents s'inclinèrent. Mais lui, sans faire attention à ce signe de reproche, se promena de long en large en sifflant dans la boutique et se mirant toutes les fois qu'il passait devant la glace. « Vous avez ici une charmante personne arrivée depuis peu, » dit Sir Sedley. « Oh, c'est Mistress Burlington, » dit Sir Théophile. « Oui, elle est assez jolie.
Elle est très belle, dit Lord Olerney.
Quand pourra-t-on la voir ? Demanda Mistress Arbery.
Je serai bien surpris si elle n'est pas ce soir au bal, répondit Sir Sedley.
On prétend que c'est une merveille, qu'elle tourne toutes les têtes par sa beauté, entraîne tous les cœurs par sa douceur, ravit toutes les attentions par ses talents et déjoue toutes les parures par son élégance.
Ce phénomène ne peut être autre chose que notre belle inconnue, dit Mistress Arbery à Camilla,
car voilà justement le portrait que vous en avez fait.
Cette beauté mystérieuse, dit Camilla, est trop disposée à la retraite et me semble trop jeune pour être mariée.
C'est la divinité, reprit Sir Sedley, dont tout le monde attend des faveurs. Mais celui qui est maître de lui-même ne se tourmente pas l'esprit pour une femme. Parmi les attributs de cette déesse, il en est deux qui sont opposés. Elle éveille l'espérance par l'idée qu'elle est l'épouse d'un mari détestable, et sa froideur vous met au désespoir.
Et quelle est, dit Mistress Arbery, cette Lady Alicia Selmore?
Lady Alicia Selmore, répondit sèchement, quoique avec un sourire, le général Kinsale.
C'est un nom qu'il ne faut pas prononcer avec irrévérence, reprit Mistress Arbery. Un titre donne du relief par lui-même quand il n'y aurait rien de plus, et quand il est accompagné d'autres qualités, il double de valeur.
Monsieur Denel dit avoir lu dans les papiers qu'il y avait une maison à vendre sur le mont Ephraim, qu'on promettait de donner à bon marché. Il proposa d'aller s'y promener pour la voir.
Lord Olerney demanda si Camilla avait déjà vu le mont Ephraim. Elle répondit que non, et l'on convint aussitôt d'aller s'y promener.
Sir Sedley se fit amener son phaéton, Mistress Arbery prit Camilla dans le sien.
Monsieur Denel et sa fille allèrent à pied et les autres hommes montèrent à cheval.
Arrivés au mont Ephraim, toute la société mit pied à terre pour jouir de la vue et de l'air pur de cette colline, tandis que Monsieur Denel visitait la maison. Mais à peine Mistress Arbery était-elle descendue de voiture que ses chevaux, effrayés par quelque objet, se cabrèrent d'une manière alarmante pour les spectateurs et plus alarmante encore pour Camilla, entre les mains de qui Mistress Arbery avait remis les rênes.
Un domestique qui était devant les chevaux reçut un coup qu'il renversa.
« Sautez à bas de la voiture !» s'écria Miss Denel. « Où vous êtes perdue ?»«
Non, non, soyez ferme et tenez les rênes !» cria Mistress Arbery.
« Pour Dieu, ne descendez pas !»
Camilla, étourdie, mais naturellement courageuse, fut assez maîtresse d'elle-même pour se conformer à l'avis de Mistress Arbery, quoique avec beaucoup de difficultés et une terreur continuelle, car les chevaux ne cessaient de se cabrer.
Ne craignez-vous pas qu'elle ne finisse par être tuée, dit Lord Newford en descendant de son cheval, de peur qu'il ne se cabrât aussi.
Pensez-vous qu'on puisse la sauver, dit Sir Théophile Gérard, en tenant tranquillement la bride du sien dans la même appréhension.
Lord Olerney était déjà sur pied pour lui donner du secours, lorsque les chevaux, se retournant tout à coup, donnèrent aux spectateurs l'affreuse inquiétude de les voir redescendre au galop le côté le plus escarpé du mont Ephraim.
Camilla, effrayée de plus en plus, abandonna les rênes pour chercher l'instant de s'élancer hors de la voiture.
Sir Sedley sauta de son phaéton avec la rapidité de l'éclair et se présenta lui-même à la tête des chevaux au moment où ils allaient tourner.
Il eut le bonheur de les arrêter au péril de sa vie, et Camilla, celui de pouvoir sauter sur le gazon.
Alors les chevaux, avec une furie qui mit le phaéton en pièces, se précipitèrent vers le bas de la montagne.
L'effroi de Camilla ne lui avait point ôté l'usage de ses sens, et la conduite et l'humanité de Sir Sedley parurent lui rendre toutes ses forces. Cependant, un de ses genoux était tellement meurtri qu'essayant de se relever, elle retomba. Pénétrée de surprise et de reconnaissance, elle fut la première, malgré sa frayeur, à demander à Sedley s'il n'était pas blessé. Néanmoins, elle soupirait intérieurement de ne pas devoir son salut à Edgar. Mais, également frappée du sentiment de l'obligation et du danger terrible auquel elle venait d'échapper, ainsi que du dévouement extraordinaire et généreux qui l'avait sauvée, elle exprima sa reconnaissance avec tant de douceur et de sensibilité que Sir Sedley lui-même ne put l'entendre sans en être ému.
Cette aventure, en effet, lui procura toute la satisfaction dont il était capable de jouir. son courage naturel, qu'il avait presque anéanti ou du moins totalement oublié dans le rôle efféminé qu'il jouait par système, sembla se réjouir d'être encore exercé. Son bon cœur fut flatté du service essentiel qu'il avait rendu, sa vanité payée par la publicité et l'éloge qui lui en revinrent, et son âme éprouva quelque chose de semblable à un sentiment originel dont l'apathie et la satiété l'avaient dépouillé. Elle l'éprouva, dis-je, comme une réaction de la sensibilité qu'elle avait éveillée dans la jeune et intéressante Camilla. Toute la société se réunit immédiatement autour de lui et l'accompagna à une maison appartenant au Lord Olerney, située sur le mont Ephraim, et sa seigneurie fit mettre les chevaux à sa voiture pour le reconduire à son hôtel. Mistress Albery, dont la force d'esprit n'avait pu tenir contre la terreur que lui avait imprimée le danger de Camilla, fut si charmée de la manière dont elle en était réchappée que toute sa mauvaise humeur contre Sir Sedley disparut et fit place au transport de reconnaissance et d'approbation. Quand il fut monté dans la voiture, elle ne voulut pas l'abandonner jusqu'à ce qu'elle l'eût vu sain et sauf dans son appartement. Camilla partagea le même désir et le Lord Olerney, plus distingué par sa bienveillance et par son urbanité que par son rang, prit la quatrième place pour lui-même. Il désira que le domestique, qui avait été grièvement blessé, restât à sa maison. En descendant le mont Ephraim, Camilla ne put voir sans frémir le péril auquel elle avait été exposée. Elle jeta les yeux, avec un redoublement d'action de grâce sur Sedley, qu'elle appelait son sauveur. Les débris du phaéton étaient dispersés sur la route, l'un des chevaux était étendu, mort sur la place, et l'autre tellement estropié qu'on ne pouvait plus espérer d'en tirer aucun service. Arrivés à l'hôtel, Camilla, Mistress Albery et le Lord Olerney descendirent avec le jeune baronnet et ne le quittèrent qu'après s'être bien assurés qu'on avait fait tout ce qui est d'usage ou de précaution en pareilles circonstances. Ensuite, Lord Olerney les reprit dans sa voiture et les conduisit à leur nouveau logement sur le Mont Plaisant. Mistress Albery supporta la perte que cet accident lui causait sans aucune espèce de chagrin. Elle prétendit que c'était un très grand bien pour elle, puisqu'il faudrait qu'elle se réduisît à une rigide économie, car elle ne pouvait se passer de phaéton ni en acheter un, ainsi que les chevaux qui lui étaient nécessaires, sans prendre sur ses autres dépenses. Elles reparurent au bal, mais Mistress Albery n'y trouva pas plus d'amusement que Camilla. Sir Sedley n'y était pas. La célèbre Mistress Burlington n'avait pas encore entrepris de venir y passer au scrutin, et Lady Alicia Selmore était à un bout de l'appartement, attendue de tous les élégants qui étaient à Tunbridge, excepté du général. Cela n'était pas supportable, aussi Mistress Albery se leva et dit qu'elle voulait aller prendre le thé avec l'invalide. En même temps, elle pria le général de l'accompagner. Comme elle passait devant le cabinet de lecture, elle se souvint qu'elle n'avait pas souscrit. Mais elle protesta que d'après son nouveau plan d'économie, elle ne donnerait qu'une demi-guinée. Camilla, intérieurement concernée, crut ne pouvoir pas donner moins et il ne lui resta que quelques shillings dans sa bourse. Elle se rassura cependant en songeant qu'affranchie des bals, des bibliothèques et mise pour tout le temps qu'elle devait rester, elle n'aurait plus de dépenses à faire. Miss Denel offrit une guinée, mais son père, en lui disant qu'elle aurait dû donner une demi-couronne, prétendit que, par cette raison, il ne paierait rien lui-même. Sir Sedley reçut ces dames avec le plaisir le plus sensible. Libre de soins et forcé à la solitude, il n'avait d'autre ressource que de lire, ce qui, excepté les papiers nouvelles, était devenu sa moindre occupation. La réflexion s'ouvrait un chemin jusqu'à lui, quoique depuis longtemps elle en fût bannie pour céder la place à la vanité, à l'affectation et à tous les genres de frivolité. Réduite à être raisonnable par la retraite qu'il était obligé de faire, il leur sut gré de leur visite et mit de côté ses singularités pour goûter le plaisir de s'entretenir avec elle. L'excellent naturel de Camilla et le sentiment profond de sa reconnaissance firent qu'elle contribua de tout son pouvoir à l'agrément de la soirée. Quelque temps après, on annonça le général Kinsale et il entra bientôt avec le major Sherwood qui arrivait du régiment et qui, pour faire agréer sa visite, pria Sir Sedley de lui pardonner d'avoir préféré sa compagnie aux bals et aux assemblées. Comme le major n'avait rien de bien brillant ni de bien choquant, Sa présence, après les premiers compliments, était presque la seule chose dont on pût s'apercevoir dans une société. Camilla fut la seule dont il ne put approcher. Elle était placée entre le baronnet et Miss Rizalberi, et tous ses regards, toute son attention n'étaient que pour eux. Miss Rizalberi, revenue de la mortification d'avoir été négligée au bal, mortification qu'elle éprouvait pour la première fois de sa vie, était d'une humeur singulièrement vive et enjouée. Sœur Sedley fit la paix avec elle. La conversation devint si gaie que Camilla elle-même y prit intérêt, et cherchant à provoquer une sensation qui lui était si naturelle, mais qu'elle avait presque oubliée depuis longtemps, elle se voulut, en quelque sorte, du bien de s'entendre encore une fois rire. L'entretien fut tout à coup interrompu par un soupir profond qu'on entendit dans l'appartement voisin. On en fit quelques plaisanteries. Ensuite, on reprit la conversation avec une nouvelle gaieté. Le temps s'écoulait agréablement lorsqu'on remarqua que Miss Denel, n'ayant point de jeune personne avec qui elle pût causer, périssait d'ennui et allait s'endormir sur sa chaise. Son père était allé déjà faire préparer le souper. Il avait ordonné qu'on le lui servît dans son appartement, et il mangeait en attendant Miss Denel, car Miss Rizalberi, à son grand regret, n'avait voulu autre chose pour ce soir que du fruit et des huîtres. On jugea qu'il était temps de lui ramener sa fille, et on prit congé. Miss Rizalberi fut reconduite par le général et Camilla par le major. Tandis que personne ne donnant le bras à Miss Denel, elle suivait, moitié endormie et chancelante à chaque pas. Elle se laissa même tomber avant d'arriver au pied de l'escalier. Le général vola le premier à son secours. Le major préféra ne pas quitter Camilla, qui, tournant les yeux vers un appartement d'où quelqu'un sortait avec une lumière, vit distinctement que c'était Edgar qui la portait. L'étonnement, le plaisir, l'espérance et la honte s'emparèrent alternativement de son cœur. Mais ce dernier sentiment l'emporta sur les autres. Elle quitta involontairement le bras du major, et Miss Rizalberi s'écria « Dieu me bénisse, c'est M. Mandelbert !» « Quoi? C'est vous que nous avons entendu soupirer si fort dans l'autre appartement ?» Mandelbert essaya de faire une réponse, mais il ne put y parvenir. Miss Rizalberi se rendit à la voiture de M. Denel, suivie des deux jeunes dames, et elles partirent pour le Mont Plaisant.